Salut auditeurs de podcast, bienvenue à ce premier qui théoriquement est le troisième épisode du Chris Negroski Podcast. Ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps savaient que j'ai déjà essayé de lancer deux fois un podcast solo, mais il y a des circonstances qui sont arrivées qui ont fait que j'ai abandonné et le projet a avorté deux fois. Mais comme on dit, troisième fois n'est pas coutume, je sens que celle-ci est la bonne. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Chris Negroski, parce que ça m'étonnerait que vous soyez tombé sur ce podcast par hasard. Je suis un créateur de contenu québécois qui habite à Montréal. J'ai présentement 24 ans. Mais avant que je fasse une petite présentation brève de qui je suis, ce podcast-ci, je vais vous dire en quoi il va consister concrètement. Ça va être un podcast dans lequel je vais traiter de différents sujets, que ce soit autant l'actualité, des anecdotes, des débats et autres. Je vais distinguer, je fais une distinction entre ce contenu sur ce podcast et le contenu que je fais en format vidéo, parce que ceux qui me connaissent déjà, ça, vous savez que je fais des vidéos sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et autres, et ça depuis environ 2-3 ans. Mais le contenu podcast va être un contenu un peu différent, ça va être un format un peu plus long, un format un peu plus travaillé. Sans la vidéo, ça va rajouter quelque chose de plus et ça va vous permettre de m'écouter quand vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas forcément accès à YouTube, TikTok et autres. Ça va être des formats entre 30 et 45 minutes, dépendant. Ça va pas dépasser une heure et demie, à moins qu'on ait un invité. Et là, c'est ce que je compte faire dans un futur très proche. Je compte inviter différentes personnalités publiques et des gens que je trouve qui ont un parcours et un propos intéressant qui serait intéressant à discuter, à partager avec vous. Ce podcast va être publié environ une fois par semaine. On est présentement samedi, donc ça va être chaque samedi à 20h le podcast. Notez-le dans votre agenda. Et je fais la promesse, vous l'avez entendu ici, chaque samedi à 20h, ça va être publié et ce, sans faute. Cette troisième fois-ci, ça va être la bonne. Ce podcast-ci va durer minimum un an. Ensuite, on verra ce qu'on en fait. Donc, comme je l'ai dit, vous me connaissez sans doute déjà, Chris Negroski, créateur de contenu. Je suis d'origine camerounaise. Je suis né au Cameroun. On est arrivé au Québec en 2009. J'avais environ 9 ans. Vous devinez donc là que je suis né en 99 et autres. On a grandi dans la ville de Sherbrooke, contrairement à la croyance populaire. Je ne suis pas haïtien de 1 et je ne suis pas un gars de Montréal. Il y a certaines personnes qui me reprochent ça. Oui, t'es pas un vrai gars de Montréal, t'es pas un vrai négro, t'as pas grandi dans le ghetto, tu connais pas nos enjeux, tu sais pas ce qu'on vit quotidiennement, bla 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 bla. Sherbrooke, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas la campagne, okay? C'est pas la forêt. Il y a des immigrants comme à Montréal, vraiment moins d'immigrants qu'à Montréal parce qu'il y a moins de population qu'à Montréal. Mais j'ai pas grandi dans une ferme entourée de chèvres, de chevaux, de vaches et de blancs. Il y en a qui pensent que Sherbrooke, il n'y a pas un immigrant, il n'y a pas un arabe qui a juste des blancs. C'est ça votre problème, vous. Bref, je n'ai pas commencé à roaster ce genre de personnes avec la mentalité un peu fermée d'esprit, mais il faut que vous ouvriez un peu vos horizons. Je connais des gens de Montréal qui ne savent même pas c'est où Sherbrooke, alors que c'est littéralement la troisième plus grande ville au Québec. Bon, ça, c'est une autre histoire, on m'en parlera un peu plus tard. Donc oui, je suis d'origine camerounaise. J'ai grandi avec mes deux parents. J'ai deux frères, un plus jeune, un plus âgé. On a grandi à Sherbrooke, on a décidé d'établir domicile là parce que mon père pensait que ça allait être plus facile de s'intégrer que dans une grande ville comme Montréal. Et je pense qu'il avait aussi l'argument du smog ou de la pollution vu que mon petit frère est né prématuré. Je pense que, bref, si je me souviens bien, il y avait peut-être un truc de condition de l'air. Il tenait à ce qu'on soit dans un environnement un peu plus propre. Et Montréal n'était pas vraiment propice pour lui, même si mon père a habité quelques années à Montréal et quelques années à Québec. Il y a fait ses études à l'Université de Laval et c'est d'ailleurs grâce à ses études qu'on a pu avoir un visa. Il a pu avoir un visa pour nous. Donc, on a établi domicile à Sherbrooke. Et je me souviens encore, hein, c'est tellement fou, ça doit faire quoi? 15-16 ans, je me souviens la première fois que j'ai pris l'avion, parce que c'était la première fois, quand j'annonçais à mes camarades que j'allais au Canada, on était tous genre « Wow, le Canada, les Blancs, la neige, la belle vie et tout ». Je me souviens, la première fois que j'ai pris l'avion, la première fois que j'ai mangé un hamburger de ma vie, j'ai vomi. Je ne sais pas si c'est dû à la qualité de la nourriture dans un avion ou le fait que mon système digestif n'était pas habitué à manger ce genre de nourriture-là. Je me souviens, la première fois que je pose un pied à Montréal, la première fois que je vois des Blancs dans la vraie vie. Oh my God! Yo, des fois, on oublie un peu des choses comme ça, des trucs qui nous paraissent banals, mais damn! Ce qui m'a fait me rendre compte que j'avais perdu un peu cette, euh, cette magie-là, que j'étais devenu un peu blasé de la vie. Au dernier temps des fêtes, à Noël, en décembre, on a des cousins camerounais qui sont venus ici au Canada. Ça doit faire environ 2-3 mois qu'ils étaient au Canada. Et ils étaient émerveillés par des choses que moi, je trouve normales. Par exemple, ils étaient jeunes et voir une PlayStation 5, pour eux, ils n'en revenaient pas, ils capotaient. Waouh, une PlayStation 5! Ils me parlaient de GTA, Call of Duty et tout. Donc moi, je me suis souvenu un peu comment, quand j'étais jeune au Cameroun, ce genre de choses qu'on prend un peu pour acquis aussi au Canada. Et spécial pour les gens en Afrique. Quand on était au Cameroun, on était une des rares familles qui avait une PlayStation 2. Ça, je pense que c'était environ en 2006. Et au Cameroun, quand tu avais une PlayStation 2 en 2006, tu étais le riche du quartier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'avaient. Je me souviens, tout le village venait dans notre quartier jouer à GTA. Je sais pas si c'était San Andreas et tout. Là. Mais ouais, c'était vraiment... C'est des trucs comme ça. Là. Et ça m'a vraiment rendu ému quand j'ai vu mes cousins être émerveillés par des choses qu'on trouve normales. Tu sais, ici, un iPhone, un ordinateur, un iPad, une tablette, de l'argent, manger à ta faim, c'est des choses qu'on prend pour acquis, mais c'est pas une chance que tout le monde a partout dans le monde. Je suis issu d'une famille d'intellectuels. Mes deux parents sont... mon père est enseignant. Mes deux parents sont auteurs. Ma mère a eu un cours en gestion hôtelière. Elle a travaillé en France. Elle est allée en Tunisie un peu. Et on est venu ici au Canada finalement pour établir domicile. Elle a travaillé un peu dans l'hôtellerie. Mais après, je pense qu'elle n'a pas vraiment eu d'opportunité de travail. Donc, elle a travaillé dans un hôpital à Sherbrooke pendant environ 7-8 ans, si je me souviens bien. Je suis d'une famille de sportifs. On a tous joué au soccer. Mon père, je ne sais pas si soccer, football, pour les Français, les Européens qui nous écoutent. Je ne sais pas si mon père a déjà vraiment joué au foot, mais il connaît la tactique au foot. Il est très intelligent. C'est une personne qui a plusieurs diplômes, plusieurs bacs. Donc, lui, le côté tactique du foot, il comprend bien. C'était lui qui jouait notre deuxième coach. Donc, par exemple, on avait notre coach dans nos équipes respectives. Mais lui, il était dans les estrades. Il nous suivait sur la ligne. Moi, j'étais un ailier. Mon autre grand frère était un attaquant. Mon plus petit frère était un défenseur. Mais il nous suivait sur la ligne et il nous coachait. Il nous disait, fais ta course comme ça. Cache-toi derrière le défenseur. Fais un appel en profondeur. Centre, dribble. Et des fois, ça mettait un peu les coachs dans des situations un peu délicates parce que c'était comme... Tu vas juste mélanger l'enfant si on est deux à lui donner des consignes en même temps. Mais mon père était un peu comme ça. Il était assez exigeant. Je me souviens, il me réveillait le matin pour que j'aille tirer des coups francs. J'étais un gaucher. Donc, chaque matin, on allait au parc dans mon quartier. On avait environ 10-12 ballons. Je tirais environ 2 heures de coups francs chaque fin de semaine. Et ça fait que j'étais un très bon tireur de coups francs parce que je le pratiquais tellement. Famille de sportifs, à Sherbrooke, j'ai aussi eu le luxe de jouer. Mes parents ont fait ce sacrifice. J'ai joué au hockey aussi. Entre le soccer et le hockey, j'ai une petite préférence pour le hockey. Je trouve que c'est plus divertissant à jouer, à regarder. Juste le simple fait que ça se peut que tu regardes un match de soccer et pendant 90 minutes, il n'y a rien qui se passe. C'est un peu ennuyant. Les joueurs, ils simulent. Certaines équipes jouent défensivement. Ça se peut qu'il n'y ait pas une occasion de marquer. C'est pour ça que niveau divertissement, le hockey, je le préfère vraiment au soccer. Quoique j'aime bien jouer au soccer. J'aime bien le côté un peu... je sais pas, le terrain est plus grand. Quand je joue, je préfère jouer au soccer. Mais regardez, je préfère le hockey. Ma famille, on a une famille, tout le monde encore vivant, grâce à Dieu. On a une famille qui était dans la classe moyenne. On n'était pas particulièrement pauvre. Au Cameroun, notre situation était un peu meilleure. Je me souviens qu'on avait des conditions assez favorables. On manquait de rien et tout. Ici aussi, au Québec, on ne manque de rien. Mes parents ont fait les sacrifices nécessaires. Comme je vous dis, j'ai toujours eu tout ce dont j'ai besoin. J'avais des nouveaux vêtements. J'avais le luxe de jouer au soccer. J'avais le luxe de jouer au hockey en même temps. J'avais la PlayStation 4 et la Xbox One. Et ça, quand c'est sorti, c'était un luxe. Avoir les deux en même temps, il y en a qui n'avaient même pas la chance d'en avoir une. Mais moi, j'avais les deux. Donc, ouais, situation socio-économique assez... je dirais pas qu'on était aisé, mais on ne manquait de rien de ce côté-là. Je peux vraiment pas me plaindre. Ma famille, si je pouvais les décrire un peu, parce que je sais que ça va leur faire plaisir d'entendre parler d'eux dans ce podcast, je vais vous le raconter un peu rapidement. Mon père, un peu timide de nature, parle pas trop, aime pas trop l'attention, c'est un intellectuel, il aime la lecture, les débats, il est passionné par l'Afrique. Lui, toute sa vie, fait juste parler du Cameroun, il pense au Cameroun, il habite ici, mais il pense au Cameroun. Là, d'ailleurs, il vient de revenir d'un voyage d'environ un mois, deux mois. Je pense qu'il est parti en novembre. Il est revenu là en le 31 janvier ou le 30 janvier. Ouais, c'est un gars passionné par son pays. Il a une relation un peu amour-haine avec son pays, un peu comme tout le monde. Il aime tellement que ça fait qu'il voit juste les défauts de son pays parce qu'il aimerait être capable de l'améliorer. Il aimerait être capable d'avoir une implication dans la politique pour pouvoir changer, pour avoir des impacts décisionnels sur le pays et tout. Donc lui est toujours en train de parler en mal du... Ben pas en parlant en mal, mais tu vois, d'une manière un peu drôle. Il taquine le fait que le Cameroun a le même président depuis 30 ans. C'est supposé être une démocratie, mais ça ressemble de plus en plus à une dictature. Il a hâte que le président parte. Donc c'est des discussions que des fois en famille, on a, et ça c'est assez intéressant. Ma mère, elle... Et mes deux parents sont pas très sévères, hein, je tiens à préciser. Ma mère, femme assez souriante, qui aime aider les gens, une femme de son époque. Quand je parle de femme avec elle, je sens la différence. Je sens qu'il y a vraiment... C'est une femme de son époque, elle réfléchit un peu comme une femme de son époque, mais elle est quand même capable de comprendre les jeunes. Et je suis capable de mesurer ça parce que quand j'ai des fréquentations féminines, il y a certains enjeux, voir, OK, c'est quoi la dualité dans un couple, c'est quoi la dynamique, est-ce qu'on y va avec un plus un couple traditionnel et tout. Donc, je trouve ça des fois intéressant qu'elle me donne son opinion, son point de vue sur sa vision des relations. Et d'ailleurs, dans ce podcast-ci, j'ai prévu ça, je vais l'inviter. On va discuter pendant 1h30 de tout, la vie, la parentalité, sa vie au Cameroun, sa jeunesse, ses réussites, ses peines, ses succès et autres. Et je pense que ça va être assez intéressant. C'est un exercice que le créateur de contenu, Maire de Laval, il m'a exposé à cette idée-là de faire du contenu avec nos parents, de discuter avec nos parents. Parce qu'à la fin de la journée, je trouve qu'on ne sait pas grand-chose sur nos parents. T'sais. On sait juste ce qu'ils veulent nous dire. Mais je suis sûr que si on prenait vraiment le temps de se concentrer pour leur poser vraiment des questions profondes, là, de comme, OK, c'était quoi ta vie? T'es allé où à l'école? C'était quoi ta première relation amoureuse et tout? Tes premières peines? Je ne vous cache pas que ce n'est pas l'exercice que je préfère. Je n'aime pas ce genre de conversation un peu profonde parce que j'ai peur que ça sorte certaines émotions chez moi. Mais je pense que pour l'exercice, ça peut être assez intéressant à faire. J'ai deux frères, comme je vous l'ai dit. Mon grand frère est aussi un sportif, joueur de soccer. Il a étudié aux États-Unis. Il a étudié à l'Université de Toronto. Présentement, il réside dans la ville de Québec. Je suis allé habiter un peu à Québec avec lui à l'âge de 17 ans. Je ne suis pas vraiment allé là-bas juste pour lui. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré une femme sur les réseaux sociaux et j'ai décidé de déménager à Québec pour être plus proche d'elle. Elle habitait dans la ville de Québec, dans l'arrondissement de Limoilou. Et mon frère était déjà dans la ville de Québec parce qu'il étudiait à ce moment-là au cégep de Sainte-Foy. Donc, je suis allé le rejoindre. En même temps, j'étais proche de ma copine. Finalement, la relation avec ma copine n'a pas duré très, très longtemps, mais je suis quand même resté dans la ville parce que j'aimais Québec. J'étais jusqu'à là jamais vraiment sorti de Sherbrooke, à moins que ce soit pour des tournois de soccer, de hockey et autres. Mais Québec, c'est là que j'ai découvert. C'est une ville plus grande que Sherbrooke. Sherbrooke a environ 300 000 de population, 350 000. Québec a environ 750 000, 800 000. Donc là, j'ai vraiment découvert de nouveaux horizons. Je suis resté 3 ans là. Entre-temps, j'ai déménagé à Montréal aussi et je suis revenu à Sherbrooke avec ma famille. Donc mon grand frère, c'est ça, un sportif. Il aime les animés. Il aime les mangas, il regarde One Piece et tout. Il a essayé de me mettre sur One Piece, mais honnêtement, je trouve ça tellement ennuyeux. Il écoute tout ça, la Naruto One Piece. En fait, ce qui me fait chier avec les mangas, c'est que c'est trop long. Pas les mangas, mais les animés, c'est que c'est trop long. One Piece, il y a quoi? Il y a 700 épisodes, ça dure 20-30 minutes. Des fois, il n'y a rien qui se passe. Pendant 2 épisodes, c'est juste Luffy dans le bateau. Naruto, tout ça, Dragon Ball. J'aurais aimé commencer plus jeune, mais maintenant, je suis à un âge où si j'essaie de rattraper le temps perdu, j'ai trop de choses à faire pour regarder 700 épisodes d'un gars qui est dans un bateau et qui cherche le One Piece. Là. Donc ouais, il aime les mangas. Qu'est-ce qu'il aime d'autre? C'est pas mal ça, ses centres d'intérêt, oui, je dirais. Mon petit frère, niveau personnalité, il est un peu plus discret, lui. Il aime les jeux vidéo, la musique... Il a habité à New York. Il est allé faire des études. Je ne sais pas si c'était secondaire ou cégep, niveau collégial là-bas. Il habitait à New York environ 1 ou 2 ans. D'ailleurs, je pense qu'avec lui aussi, j'ai fait un podcast qui nous parle. Ça a été quoi pour lui, cette transition-là? Elle habitait dans un autre pays. Il était tout seul. Il habitait en appartement. Dans une ville comme New York, c'est assez chaud. En plus que New York, je ne sais pas, c'est une des villes. Hein. Je crois que dans toute ma vie, impossible que j'aille habiter là-bas. Il y a trop de gens... C'est sale, la criminalité, le loyer coûte cher, les appartements sont petits. J'ai l'impression que des villes comme New York et Los Angeles, si t'es pas vraiment riche, t'as vraiment aucune raison d'aller habiter là-bas. Tu vas juste vivre une vie de misérable. Mais un truc qu'il m'a dit, qu'il a vu là-bas et qui l'a marqué, c'est la disparité entre les riches et les pauvres. Là-bas, tu vois tout, hein. Des sans-abri, des crackheads. Tu vois vraiment des gens vraiment riches, super, super riches. Et les deux se côtoient parce que dans le métro, par exemple, tu peux voir vraiment tout. Le gars autant riche que le gars vraiment pauvre. Donc, mon petit frère, oui, aime les jeux vidéo, aime la musique, il aime l'art. Il a un certain intérêt, un certain talent pour le dessin. Avec ma famille, on s'entend assez bien. Tout le monde parle à tout le monde. On n'a pas vraiment eu de problème très, très majeur de ce côté-là. Moi, quel genre d'enfant que j'étais quand j'étais jeune? Comme je l'ai dit, j'ai présentement 24 ans. Je m'en vais sur mes 25. Oh, ça fait bientôt un quart de siècle que je suis dans ce monde. Le temps file tellement vite. Plus jeune, j'étais un enfant, je dirais, turbulent, mais dans les limites. Okay? J'ai jamais eu de problème avec la police. La police ne m'a jamais convoqué ni ramené à la maison. Mais à l'école, j'aimais un peu faire rire. J'étais le clown de la classe. Moi, j'étais là pour que les gens passent un bon moment. J'étais là pour divertir mes camarades. Sauf que ultimement, eux, ils ont fini divertis et moi, j'ai fini sans diplôme. Est-ce que ça en valait vraiment? Est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle? Je suis pas encore sûr jusqu'à maintenant. Quoique, je semble avoir trouvé ma voie avec la communication, le divertissement, les réseaux sociaux. Parce que honnêtement, si j'avais joué le clown pour mes camarades et que maintenant mes camarades sont devenus ingénieurs, médecins, fraudeurs et que moi, j'ai pas de carrière, je suis pas sûr que j'aurais vraiment dit que ça en valait la peine. Mais oui, j'étais ce genre de turbulent-là. J'ai eu ma petite crise d'adolescence où j'avais besoin de me rebeller contre l'autorité, contre mes parents. Et ça a laissé place à certaines situations un peu délicates. J'ai été souvent suspendu. La responsable d'encadrement disciplinaire appelait souvent chez moi. J'ai dû reprendre une année scolaire parce que mes notes, elles étaient insatisfaisantes. Même si j'étais, somme toute, assez intelligent, j'avais une certaine aisance à l'école. Comme je vous ai dit, mes deux parents sont... Je parle bien français, j'ai pas de difficultés de ce côté-là, pas de problème d'apprentissage, pas de troubles et autres, pas de dyslexie et autres. Mais j'étais intelligent, mais ça fait que j'étais paresseux. Je rendais pas mes travaux à temps, je les faisais pas, je donnais comme effort le strict minimum. Donc j'ai dû reprendre mon deuxième secondaire et ça a été vraiment un échec que jusqu'à maintenant, j'ai encore cette croûte sur mon cœur parce que je m'en veux encore, mais en même temps, j'ai vraiment eu juste ce que je méritais, ce que je donnais comme effort. Et je me souviens, j'ai un professeur qui s'appelait Francis Bastille, j'avais environ 16 ans, et il m'a sorti comme ça. Alors, pendant la classe, j'étais en train de travailler. Je n'étais pas en train de travailler, j'étais en train de faire le strict minimum. Tout le monde travaille, il me sort de la classe, il me dit « Chris, je veux te parler dehors ». Là, je lui demande « Ok, pourquoi ?» On sort, il me regarde, il me dit « Pourquoi tu donnes toujours le strict minimum ? Tu es capable de faire tellement plus, mais pourquoi tu fais pas cet effort additionnel-là? » Et jusqu'à maintenant, je me souviens de cette conversation-là. Et c'est pour ça que j'essaye de toujours en faire un peu plus maintenant. Je regrette ce manque d'effort et cette paresse que j'avais à l'école. Mais je me dis que c'était peut-être dans ma tête à ce moment-là, c'est là que j'étais. J'avais besoin de ça pour progresser, pour me rendre un peu plus loin. Il y a aussi une autre situation marquante qui m'a marqué à l'école. OK, beau pléonasme. Je me suis fait sortir de ma classe de maths parce qu'avec mes amis et tout, on foutait un peu le bordel. Parce que déjà, les mathématiques, c'est pas une matière dans laquelle j'avais beaucoup de facilité. Donc, c'était encore là un incitatif de déranger, essayer de détourner l'attention sur le fait que j'avais de la difficulté en mathématiques. Un jour, je me fais sortir de la classe et je passe devant une classe. À mon école, on se connaissait tous. J'en parlerai un peu plus tard. Mais je passe devant une classe où à peu près tout le monde me connaît. Et il y a un professeur qui me pointe et qui dit devant toute la classe, ce genre d'élève-là ne devrait pas être à l'école. Et quand mes amis m'ont dit ça, je ne l'ai pas entendu sur le coup parce que je me dirigeais vers l'encadrement disciplinaire, mais quand mes amis m'ont dit ça, j'ai tellement eu honte parce qu'à la fin de la journée, il avait raison. Et des fois, nos enseignants, ils nous disent, si tu continues comme ça, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Et nous, quand on réussit et quand on donne des entrevues, on dit, oui, je me souviens, mon enseignant m'a dit que j'allais jamais rien faire dans la vie. En réalité, il a raison, parce qu'il parlait de cette personne-là qui était à ce moment-là, avec ce genre d'effort-là, ce genre de mentalité-là. Tu ne vas rien devenir. D'autres personnes réussissent dans la vie parce qu'ils ont changé, parce qu'ils ont trouvé c'était quoi leur voie, peut-être que ce n'était pas l'école et autres. Mais c'est vrai que quand ton prof te dit « si tu continues comme ça, tu ne vas rien réussir », Il a quand même raison. Il a quand même raison. J'allais à une école secondaire qui s'appelait Dufar dans la ville de Sherbrooke. C'était pas, je dirais pas une école défavorisée, mais c'était pas, ouais, c'était sûrement une des écoles les plus défavorisées de la ville. Mais je veux dire, on avait de l'eau potable. Il y avait, on manquait de rien. On avait tout ce dont on avait besoin pour avancer académiquement. Mais comparé aux autres écoles de la ville, c'est vrai qu'on n'avait pas la meilleure réputation. Et je me souviens quand je fréquentais des femmes qui allaient dans différentes écoles, par exemple dans des écoles privées, dans des collèges, quand elles disaient à leur père qu'elles fréquentaient un homme de l'école du phare, tu voyais dans le visage du père qu'il était comme « on dirait que j'ai pas juste entendu des choses positives de cette école-là ». Mais nous, honnêtement, à Dufar, tout le monde connaissait tout le monde. On avait grandi dans le même quartier. Il y avait vraiment de... C'est un peu ça l'avantage d'être dans une école que je dirais pas défavorisée, mais c'est que comme tout le monde est au même niveau social. T'sais, c'est pas une école privée où il y a le gars super riche avec l'autre immigrant que les parents font des sacrifices financiers pour qu'il ait les meilleures études possibles. On était à peu près tous au même niveau. On avait les mêmes centres d'intérêt, la danse, les jeux vidéo, la culture populaire. Donc, de ce côté-là, mon passage à l'école secondaire a été vraiment, agréable. Je ne me souviens pas de situation particulière où on m'a intimidé outre mesure. Ah, en fait, non, oui, j'ai une situation en tête. Quand je suis arrivé à l'école secondaire à l'âge de 13-14 ans, moi, j'avais mon meilleur ami qui s'appelait Jonathan et on est allé s'asseoir à la cafétéria pour la période du dîner. Et il y a une femme, je me souviens de cette femme, elle s'appelait Jessica. Elle nous dit « Vous vous êtes assis à ma place, je m'assois ici depuis 3 ans, tassez-vous de là. » Et on a tellement eu peur parce que tu vois, tu arrives à l'école secondaire, tu as cette vision que tu as vue dans les films de l'intimidation, te faire enfermer dans un casier, te faire mettre dans la poubelle. On avait tellement peur, donc finalement, on ne s'est plus jamais réassis à cette place-là. Mais avec du recul, je me dis, elle nous aurait rien fait si on était resté assis là. C'est un peu comme quand tu grandis, tu te rends compte que les gens que tu prenais en modèle, que tu voyais comme des idoles, finalement, c'est des losers autant que toi. Ça me fait souvent ça avec des YouTubers que quand j'étais jeune, j'idolâtrais. Quand je grandis, je me rends compte que ce gars-là, c'est un minable en vrai. Je ne sais pas ce que je lui trouvais. Mais il n'a vraiment rien de particulier. Donc oui, à Dufar, l'école Dufar, on a eu assez de plaisir. Les dîners, le midi, on dansait. C'était à la période où le jerk et le doggy, pour ceux qui connaissent, étaient assez populaires. Donc on dansait et tout, on jouait au soccer entre nous. C'était une école où il y avait quand même des Québécois. Je dirais que le pourcentage, c'était sans doute 70% d'immigrants et l'autre 30% de Québécois. Ou peut-être 60% immigrants, 40% Québécois, parce qu'on était dans un quartier qui, majoritairement, il y avait des immigrants. Là, okay? Mais il y avait quand même des Québécois. C'est pas comme certains quartiers à Montréal où il y a littéralement 3 Blancs dans une école de 1000 élèves. C'était un peu plus équilibré que ça. Mais on cohabitait quand même très bien entre nous. Là. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de guerre entre les Noirs et les Arabes, ou Noirs, Blancs, ou Arabes et autres. C'était vraiment... On vivait de manière cordiale entre nous. Il y a peut-être juste un groupe auquel à peu près toute l'école était hostile. Et avec un peu de recul, on dirait que je me sens mal à l'aise. On a eu à une certaine période une immigration népalaise. Okay? Il y avait beaucoup de Népalais qui arrivaient. Et je sais pas si... Je pense qu'ils arrivaient directement... Je pense qu'ils arrivaient soit de l'Ontario, soit directement du Népal. Et les Népalais... les enfants, on est des vrais démons. Je me souviens... 2 trucs qui me font dire que les enfants, on est des démons. 1, on avait les Népalais et on trouvait qu'ils sentaient les épices parce qu'ils ont une odeur assez prononcée et on faisait des blagues tellement racistes. Et certaines Népalaises, je crois que c'était les femmes, elles avaient un point rouge dans la face et on faisait des blagues désobligeantes. Et dans mon quartier, on avait aussi un jeune qui avait un jeune qui était en chaise roulante. Il avait juste son bras qui bougeait. Et il avait une chaise électrique qu'il pouvait contrôler juste avec sa main gauche. Et je me souviens, dans mon quartier, il y a un gars qui a eu un problème avec ce gars en chaise roulante et il a tassé sa main de la chaise électrique, genre sa main du joystick pour contrôler sa chaise. Mais si tu fais ça, là, il peut littéralement pas bouger. Et je me souviens, il y a certaines personnes qui trouvaient ça drôle. Avec du recul, je trouve pas ça tant drôle. Je me dis, waouh, on était vraiment très, très intolérants. Donc oui, les Népalais, c'est peut-être le seul groupe envers lequel... La majorité était hostile, mais c'est parce qu'on les connaissait pas, on savait pas ils venaient d'où, on connaissait pas leur culture, leur code, donc ça n'a pas été vraiment facile pour eux, cette intégration-là. s'il y a un de vous qui a grandi avec moi, qui m'écoute en ce moment, hey, je suis désolé pour ce qu'on vous a fait subir. Je me souviens, il y en a un que j'affectionnais particulièrement, il s'appelait Abhishek. Shout out à toi, Abhishek. Je sais pas si tu écoutes le podcast. Je pense qu'il a déménagé dans l'Ouest, en Ontario, quelque chose du genre comme ça. Dans mon enfance, comme je vous l'ai dit, j'ai joué au soccer et au hockey. Et mon expérience au hockey a vraiment été... elle m'a apporté en tant que personne. Être un immigrant, un noir, à cette période-là qui joue au hockey, comme je vous ai dit, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est là que j'ai vu certains enjeux auxquels je n'avais pas encore vraiment été confronté dans mon quartier ou à l'école secondaire ou en jouant au soccer. Parce qu'au soccer, la majorité, c'est des immigrants. Il y a quelques Québécois par-ci, par-là. Le soccer, ce n'est pas vraiment un sport dispendieux, mais le hockey est particulièrement cher. Première fois que je m'en vais à un camp de sélection au hockey. Au hockey, il y a les catégories Pee-wee, c'est environ 10-12 ans. Après, il y a Bantam, qui est environ 13-14, si je me souviens bien. Après, il y a Midget. Mon père arrive, la madame lui demande, oui, c'est pour inscrire Chris dans quelle catégorie? La catégorie Pee-wee, lui, il appelle Pipi. Bantam, il appelle Bantam. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'aurais pas vraiment d'aspiration professionnelle et que j'aurais pas vraiment le soutien de mon père dans ce sport qu'il ne connaissait pas du tout. Mais avec du recul, il a quand même fait l'effort. Il m'a amené aux pratiques, il m'a acheté les derniers équipements, il m'achetait les bâtons dont j'avais besoin, mes deux parents m'amenaient aux entraînements et autres. Mais j'étais quand même un petit enfant ingrat, un petit bébé gâté qui pensait que tout lui était dû. Comme mes parents faisaient certains sacrifices additionnels pour que je puisse pratiquer ce sport tellement dispendieux. Le hockey, une saison, ça a coûté minimum 1 000 $, là. Et le soccer, une saison, ça a coûté 200-300 $. Donc, ma mère devait faire du temps supplémentaire et ça fait qu'elle n'avait pas souvent la possibilité de se présenter à mes matchs parce qu'elle travaillait ou elle devait finir un peu plus tard. Et moi, je me plaignais toujours. Pourquoi tu ne viens pas à mes matchs? Pourquoi tu es toujours en retard et tout? Alors qu'elle faisait ça pour que je puisse jouer à ce sport-là. C'est une opportunité. Et je vous dis, quand j'y repense à tout ça, j'ai tellement honte. Mais je suis encore un peu trop orgueilleux pour lui dire je m'excuse. Donc, si tu écoutes ce podcast, maman, tu as eu ce que tu mérites. Donc, entre le sport, j'ai commencé à créer du contenu sur Internet. Qu'est-ce qui m'a pris vraiment la piqûre de faire des vidéos? Un peu comme tout le monde, avant de se lancer dans un art particulier, c'est le fait que tu le consommais. Donc, ce qui m'a fait commencer à faire des vidéos, c'est le fait que j'écoutais des YouTubers, autant ici au Québec, en France, un peu moins aux États-Unis, parce qu'à ce moment-là, mon anglais n'était pas très bon, même si au Cameroun, j'allais à l'école primaire en anglais. Mais quand tu arrives ici au Canada, les règles d'immigration disent que si tes deux parents ne sont pas bilingues ou que ta grand-mère ne parlait pas anglais, un truc comme ça, tu dois aller dans une école francophone pour faciliter l'intégration parce que le Québec ne veut pas qu'ils amènent des immigrants ici et que les gens commencent à parler anglais. Donc, on a dû aller dans une école francophone, ce qui m'a fait perdre mon anglais. Donc, j'écoutais juste des YouTubers au Québec et en France. J'écoutais du rap français. J'écoutais pas du rap québécois, mais j'écoutais pas de rap aux États-Unis, vu que je ne comprenais pas trop les paroles et autres. Et les YouTubers que je regardais à cette époque-là, ben, c'était tout ce qui se faisait le plus populaire. Mr. V, Squeezie, Norman fait des vidéos, Diablo X9 pour les jeux vidéo. Les vrais s'en souviennent de ce YouTuber qui était selon moi un des meilleurs. Il y avait aussi Wartek, Monsieur Levé 12, Gotaga. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'envie de faire des vidéos sur Internet. Évidemment, à ce moment-là, j'étais assez jeune, j'avais pas de travail, donc j'avais pas l'argent nécessaire pour acheter un matériel pour faire du contenu de jeux vidéo parce que c'était assez dispendieux à cette époque-là. Il te fallait un enregistreur qui coûte environ 200-300 $, un ordinateur qui vaut environ 1 000 $, il te faut deux écrans qui sont 250 $ chaque, un micro, une caméra, des lumières et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos de type humoristique, OK? C'est un podcast, vous voyez pas mon visage en ce moment, mes signes de main. Humoristique, je le mets vraiment entre guillemets parce que c'était pas de l'humour. Si tu regardes ça aujourd'hui, c'est vraiment malaisant, mais c'était l'humour de l'époque, tu vois, faire des blagues sur tes parents immigrants, le fait d'être un enfant turbulent, les rencontres parents-élèves à l'école, des blagues sur le poulet, des trucs tellement malaisants, mais qui à l'époque sur Facebook rencontraient un certain succès. J'ai commencé à faire des vidéos sur la plateforme Facebook parce qu'à l'époque, maintenant en 2024, Facebook c'est un peu désuet, plus personne n'utilise ça. Mais Facebook avant là, c'était la plateforme sur laquelle il fallait vraiment, vraiment être. J'ai créé un peu de contenu aussi sur la plateforme Ask, plateforme sur laquelle tu pouvais poser des questions, des gens pouvaient te poser des questions de manière anonyme ou non, et toi, tu répondais à celle qui te tentait. J'ai une petite confession à vous faire. Il y a certaines questions que je me posais moi-même pour mettre des réponses drôles. Ah oui, maintenant c'est dit, hey, 2024, j'ai plus honte, plus rien à perdre, je vous le dis, je répondais à certaines questions. Je suppose que tout le monde faisait ça. À un certain niveau, là, c'est un peu comme liker ta propre photo sur les réseaux sociaux. On a tous déjà été coupables à un moment donné dans notre vie. Donc, c'est cette plateforme-là où j'ai commencé à me faire tranquillement un nom aussi. Il y a aussi la plateforme Snapchat sur laquelle j'étais connu pour mettre des stories entre guillemets drôle. Quand je les re-regarde, ces stories-là en rétrospective, oh mon Dieu, il y avait des trucs malaisants. Une chance que après 24 heures, une story sur Snapchat, elle s'archive et les gens ne peuvent plus la retrouver à moins qu'ils l'enregistrent. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu des vestiges de ce que je faisais sur Snapchat à l'époque. Donc, je suis plutôt content. C'est sur ces plateformes-là que j'ai commencé à faire un nom. Facebook, je me suis fait connaître en faisant des... La première fois que j'ai vu un minimum de succès sur Facebook... Il était tard la nuit, pendant l'été, j'ai fait un live. À l'époque, je faisais déjà des lives où je disais, si j'ai 100 personnes sur mon live, je vais dans la chambre de mon père et je lui verse un verre d'eau sur la tête. Et évidemment, j'ai eu mes 100 vues et je n'ai jamais fait ça parce que je tiens à ma sécurité et à mon intégrité physique et psychologique. Mais c'est là que j'ai commencé à faire des lives, j'ai commencé à faire des prank calls, le fait d'appeler des gens et de dire des choses pour amuser les gens qui te regardent. C'est comme ça que j'ai réussi à me faire un nom. Je me souviens la première fois que j'ai vu des gens m'ajouter de Montréal. Pour moi, j'étais un gars de Sherbrooke qui n'était jamais vraiment sorti de la ville. Pour moi, Montréal, c'était comme Las Vegas ou Los Angeles. Là. Le fait que quelqu'un me connaisse à Montréal, j'étais émerveillé. J'étais vraiment genre « Waouh, on me connaît à Montréal! On parle de moi à Montréal! » Et la première fois que je me suis fait reconnaître à Montréal, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais allé voir avec mon ami de Sherbrooke un match du CF Montréal, l'Impact de Montréal, anciennement l'équipe de soccer provincial professionnel. Et le match fini, on est à la station de métro pour acheter des tickets de métro pour rentrer chez nous. Et il y a un homme qui me tape l'épaule. Il me tape l'épaule. Et quand tu t'es jamais fait reconnaître, ça te surprend. T'es comme, est-ce qu'on se connaît? La personne me demande, est-ce que t'es Chris Negroski? Mais c'était une personne qui avait une carrure assez imposante et intimidante. Je suis avec mon ami, on est deux gars de Sherbrooke. Hey, pour nous, Montréal, là, c'est Chicago. Là. On entend parler d'armes à feu, meurtre, homicide, tentative de meurtre et tout. Donc, on avait assez peur. Et entre le temps où je réponds, oui, c'est moi, Chris Negroski. Parce que déjà, même à cette époque-là, le contenu que je fais est assez... soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Donc, il n'y a pas de juste milieu. Donc, je me dis, soit c'est un gars qui aime ce que je fais et cette interaction va bien finir, ou ça va partir en couille. Bon, moi, je savais, hey, il y avait à peu près 10 000 personnes autour de nous. Si on se faisait tabasser, hey, on allait se faire tabasser 2-3 minutes après, quelqu'un allait, un bon samaritain, j'ose espérer, allait venir séparer. Entre le moment où je réponds, oui, c'est moi, Chris Negroski, mon ami est déjà parti, il m'a abandonné, ce lâche. Et finalement, le gars il me dit « Oui, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien déjà ton franc-parler. » Déjà à cette époque-là, c'est une qualité que les gens reconnaissaient chez moi. Donc, j'étais comme « Merci, j'étais un peu soulagé parce qu'on a vraiment frôlé la catastrophe. Hey, mon équipe venait de gagner l'Impact de Montréal. Je n'étais pas dans un état d'esprit pour me battre ou essayer de me défendre, du moins. » Donc, oui, Sherbrooke, je faisais des vidéos un peu gênantes. Je faisais des prank calls, comme ça, je commençais à me faire reconnaître un peu. Entre-temps, j'ai fait la transition sur la plateforme YouTube. Sauf que, comme je vous ai dit, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'habitais dans la ville de Québec. J'avais quitté la ville de Sherbrooke pour aller à Québec pour rejoindre ma copine et mon frère. Entre-temps, je travaillais au Costco. Je faisais des vidéos en même temps de travailler. Je streamais sur Twitch après avoir travaillé et autres. Et Costco a vraiment été une... C'est ça qui m'a permis d'acheter mon premier vrai matériel vidéo. Parce qu'à l'époque, à Sherbrooke, j'ai réussi à acheter une caméra, un ordinateur plutôt, en travaillant au Tim Hortons, qui est un service de restauration rapide ici au Canada, au Québec. J'ai acheté mon ordinateur comme ça. Ma caméra, ma première caméra, je me souviens plus comment je me la suis procurée. Mais je me souviens que ma deuxième vraie caméra, c'est mon meilleur ami qui, quand il a signé un bon contrat, il m'a donné 1 500 $ littéralement pour que j'achète une caméra. Parce que j'étais à une époque dans ma vie où je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'étais dans ma genre de deuxième crise existentielle. Je ne faisais plus de sport. J'avais arrêté le hockey et le soccer entre-temps pour me concentrer sur les jeux vidéo parce que ça m'a un peu fait dérailler. Ouais, j'ai eu une période où j'étais un vrai geek, là. Moi, c'était les jeux vidéo à fond. Comme je vous ai dit, j'avais la PlayStation, la Xbox. Je jouais à Call of Duty jour et nuit. Et c'est ça qui m'a fait reprendre une année scolaire. C'est pour ça que mes notes étaient insatisfaisantes. Parce que je faisais juste arriver à la maison. Je jouais. Donc, c'était une période où je ne faisais plus de sport. L'école, j'avais jamais vraiment eu d'aspiration particulière. Je me voyais pas aller à l'université, au collège. Je suis allé au cégep, qui est le collège ici au Canada, seulement pour toucher une bourse financière qui avait été mise de côté. Et pour que je la touche, il fallait que je m'inscrive au niveau collégial à des études supérieures. Donc, je suis allé juste pour ça. Entre-temps, j'ai arrêté. Hey, j'étais chez moi, je faisais rien. Je passais mes journées couchées. J'étais déprimé. Je savais pas ce que j'avais envie de faire. Et mon ami, à partir du moment où il m'a fait cet aveu de confiance-là, il m'a acheté une caméra, il m'a dit hey, « toi, ton truc, c'est les vidéos, la communication, le divertissement, l'humour. » Il m'a acheté une caméra et c'est là que ma vie a complètement changé. J'ai retrouvé ma motivation. Entre-temps, j'ai déménagé à Québec, comme je vous ai dit. Je travaille au Costco. C'est là que je me suis acheté tout ce dont j'avais besoin pour faire des vraies vidéos. Là, j'avais un bon écran d'ordinateur, j'avais un bon ordinateur, j'avais un bon téléphone et ça m'a vraiment redonné la niaque. Et si mon ami n'avait pas pris ce pari, je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui, je serais où je suis maintenant. C'est sûr que je ne suis pas où j'aimerais être, mais je considère que j'ai quand même fait un chemin assez considérable jusqu'à maintenant. C'est pour ça que même quand j'ai eu certaines controverses sur Internet, quand j'ai eu certains problèmes, je n'ai jamais considéré arrêter parce que je me souviens les sacrifices que les gens autour de moi ont fait, que ce soit ma mère qui m'achète un iPhone pour que je puisse faire des vidéos de meilleure qualité, mon ami qui m'achète une caméra, mes frères qui me soutiennent, les abonnés sur Internet qui ont investi leur temps et leur argent pour qu'aujourd'hui, je devienne la personne que je suis. C'est pour ça que même quand je me retrouvais plus bas que terre, je me dis hey, « c'est impossible, juste par respect, par considération pour les sacrifices que les gens autour de toi ont fait, c'est impossible que tu abandonnes. Man. Tu vas noter tes erreurs, tu vas apprendre, même s'il faut que tu retournes travailler et que tu ne vives plus d'Internet, c'est quand même des sacrifices qui... au final, risque de payer. Je ne considère pas que jusqu'à maintenant, ça a payé, mais on ne sait pas, peut-être que dans un futur proche, rapproché, je vais voir les fruits des efforts que j'ai faits. Donc, entre-temps, quand j'ai habité à Québec, je travaillais au Costco en même temps, j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que jusqu'à là, je faisais des vidéos seulement sur Facebook, comme je vous ai dit, des plateformes comme Snapchat. Et c'est assez facile de réussir sur ces plateformes-là, mais tant que tu n'as pas réussi sur YouTube au Québec ou même en France, on ne peut pas considérer que tu as un vrai succès parce que les plateformes comme TikTok, Instagram, c'est assez facile de développer une audience, mais YouTube, c'est vraiment un vrai cheval de bataille. C'est là vraiment que c'est vraiment dur de s'imposer. J'ai fait la transition là, je me souviens, les premiers mois, hyper difficile. C'est vraiment compliqué. Je voyais 100, 200, 300 vues pendant au moins 2-3 mois. Et je faisais des mental breakdowns, je ne sais pas comment on dit ça en français. Là, je me mettais tellement de pression, je voulais réussir. Et finalement, après environ 2, 3, 4, 5, 6 mois, j'ai commencé à voir vraiment les chiffres augmenter. Je suis passé de 100, 200, 300 abonnés, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000 abonnés sur YouTube. Et je tiens à remercier trois personnes particulièrement qui m'ont aidé sur Internet. Quand je parle de personnes, je parle des personnalités publiques. Premièrement, il y a GNT Productions avec Cheyenne. Et Alex de Lucky, qui à cette époque-là m'ont donné vraiment un gros tremplin sur Internet. Eux, ils étaient déjà vraiment connus au Québec et ils ont accepté de travailler avec moi. Donc, ça m'a donné vraiment une plus grosse plateforme sur laquelle je pouvais développer ma personnalité et autres. Deuxième personne, c'est Papy Melv qui m'a aidé, même avant GNT et tout ça, parce que lui, j'ai connu Melv. En fait, c'est un des premiers noirs, Melv Official, qui s'appelle Papy Melv aujourd'hui. C'est un des premiers noirs que j'ai vu sur Internet à l'époque. Il faisait des vidéos déjà avant moi. Je regardais ses vidéos avec mon petit frère et je me souviens, j'avais envoyé un message à Melv. Hey, c'est quoi la caméra que tu utilises? À une époque où je n'avais pas vraiment l'argent nécessaire pour m'en acheter une, pour m'en procurer une. Donc, je voyais un peu sa progression sur Internet et ça me motivait. Et maintenant, je suis rendu là grâce, entre autres, au support de Melv parce qu'il me partageait sur ses plateformes. Il a accepté de venir sur ma chaîne YouTube, qui est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne. J'ai fait des réactions à son contenu, ça m'a beaucoup aidé. Et la troisième personne que j'aimerais remercier, c'est Alanis Desilets, qui est une influenceuse qui a fait la télé-réalité Occupation Double. Elle a environ 200, 250 000, 300 000 abonnés sur Instagram. Et j'ai fait une vidéo sur... je me souviens plus trop c'était quoi. Je me souviens plus sur quoi, mais elle a gentiment fait une story dans laquelle elle a parlé de moi sur sa story Instagram. Et à ce moment-là, elle venait juste de sortir d'Occupation Double. Donc, elle avait vraiment une audience très, très fidèle. Et entre le moment où elle a publié la story et les 7-10 jours qui ont suivi, j'ai pris comme 7-8 000 abonnés sur YouTube. Au Québec, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est combien, 7-8 000 abonnés, mais c'est vraiment considérable. Donc, j'aimerais vraiment remercier ces trois personnes-là. Je vous en suis éternellement reconnaissant. Je dis trois personnes, mais je considère aussi Cheyenne, Alex de Lucky, avec GNT et tout. Donc, j'ai commencé vraiment là, j'ai fait ma transition sur YouTube et c'est à partir de là que vraiment, je pouvais considérer que contrairement à d'autres créateurs de contenu, j'avais vraiment réussi à m'établir sur YouTube parce que c'est ça le plus difficile. Il y a plein de gens qui ont des 300, 400 000 sur des plateformes comme TikTok, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à établir une audience, une vraie niche sur, sur une plateforme comme YouTube parce qu'à la fin de la journée, c'est la seule qui rémunère. TikTok, ça ne paye pas au Québec. Instagram non plus, Snapchat non plus. Donc, c'est vraiment sur YouTube que tu peux voir de l'argent. Et c'est là que j'ai vu mes premiers chèques, 1000, on va dire 500 $, 800, 1000, 1600, 2000. Je postais environ 2-3 vidéos par semaine. Et à cette époque-là, j'avais vraiment la bonne mentalité. Je dis ça parce que je pense que plus tes choses fonctionnent, plus tu commences à essayer d'essayer de te compliquer la tâche, à trop réfléchir. À cette époque-là, je faisais une vidéo, je la publiais. Je ne me demandais pas est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon. Parce qu'il y a un calcul mathématique sur les réseaux sociaux qui disent que pour avoir environ 10 000 abonnés sur YouTube, il faut que tu publies 100 vidéos. Okay? 100 vidéos, ça va prendre, on va dire, si tu publies une vidéo par semaine et qu'il y a 52 semaines dans une année, ça veut dire que ça va prendre environ 2 ans pour avoir 10 000 abonnés. Donc, j'avais publié 100 vidéos et je ne réfléchissais pas. J'avais une idée, je la faisais directement. Mais on dirait qu'avec le temps, on perd un peu cette naïveté-là. On essaie de trop compliquer les choses. Donc, je publiais. Et là, finalement, j'ai atteint, on va dire, 10, 15, 20 000 abonnés sur YouTube. Entre-temps, j'ai lâché la plateforme Facebook parce qu'elle perdait un peu en crédibilité. Les jeunes ont délaissé Facebook pour Instagram et des plateformes comme Twitter, Snapchat. Parce que Facebook, c'était devenu un peu trop... Je dirais qu'au moment où nos parents ont commencé à être sur Facebook, c'est à partir de ce moment-là où on a senti un déclin de Facebook chez une jeune audience. J'ai été connu sur YouTube pour faire des... je faisais des vidéos réactions à des télé-réalités, que ce soit Occupation Double, qui est une télé-réalité ici au Québec, que ce soit l'émission À table avec mon ex. C'est là que certains d'entre vous qui m'avaient connu. C'est une émission où des ex viennent dîner autour d'un repas et règle leurs problèmes de relation. J'ai arrêté de faire ce genre de contenu-là parce que je me suis rendu compte que l'émission, elle était scriptée. Moi, naïvement, quand je faisais des réactions, je pensais que c'était une émission où c'était des vrais couples. Mais j'ai appris par là qu'il y a des gens, c'était même pas des vrais couples, ils se connaissaient pas, ça avait été organisé. J'ai fait ce genre de contenu-là, télé-réalité, c'est surtout pour ça qu'on m'a connu au Québec. Entre-temps, j'ai diversifié un peu mon contenu sur YouTube, sur Internet de manière générale. J'ai vraiment tout fait. Là. J'ai fait du gaming, j'ai fait de l'actualité, j'ai fait du sport, télé-réalité, humour, des vidéos un peu plus sérieuses et autres. Entre-temps, comme je vous ai dit, j'ai tenté d'aller au cégep, mais ça n'a jamais vraiment été très, très concluant. Comme je vous ai dit, j'y allais vraiment juste pour une bourse financière. Je suis allé au cégep de Sherbrooke pendant 2-3 semaines. Après, j'ai lâché. Je suis aussi allé au cégep de Sainte-Foy à Québec. Ça aussi, j'ai lâché comme je n'avais pas vraiment l'ambition de... Je ne savais pas ce que je voulais vraiment faire. J'y allais vraiment juste pour pas que mes parents soient déçus, mais ils ont quand même fini déçus parce que je n'ai jamais vraiment continué. Mais je pense qu'à ce moment-ci, mes parents me font confiance que je suis dans mon plan de carrière, même si le plan n'est pas proprement défini. Ils sentent que je suis capable de faire quelque chose dans la chose que je fais en ce moment. Donc, de ce côté-là, j'ai plus vraiment de pression de mes parents. Soit ça, soit ils ont abandonné parce qu'ils ne croient plus en moi. Je suis aussi allé en école de radio à Québec. Ça s'appelle le CRTQ, Centre de radio-télévision du Québec. Je ne suis pas resté très, très longtemps là aussi parce que je me demandais si c'était vraiment la radio que je voulais faire. Une chose qui m'a fait peur de la radio, c'est qu'ils me disaient qu'ils pouvaient me délocaliser hors de Sherbrooke et de Montréal, tu vois. Donc, s'il y avait un contrat, on va dire, à 8 heures de Sherbrooke, et j'avais pas envie d'être loin de ma famille. En plus, avec les personnalités des autres gens qui étaient dans ma classe, je me disais, j'avais vraiment une personnalité qui détonnait, là. Je me sentais pas parmi le groupe. Et on était là à 8 heures du matin, on venait de se réveiller. Et eux, c'est des gars de radio, ils aiment parler. Donc, tout le monde était déjà en train de parler, raconter des histoires. Et moi, je suis un peu introverti de nature. Je ne suis pas une personne qui parle beaucoup particulièrement. Donc, je me suis dit, hey, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie? Donc, j'ai arrêté d'aller là-bas. Je suis resté 1 mois, je pense, maximum. Et pour la petite anecdote, encore une fois, je me suis inscrit à ce collège-là parce que je fréquentais une femme à cette époque-là qui s'appelle Alicia, shout-out à toi, qui m'a suggéré, elle allait là-bas pour technique juridique. elle m'a suggéré d'aller là-bas parce qu'il y avait le programme radio et elle savait déjà que je faisais des vidéos sur Internet et j'avais cette aisance devant la caméra, devant le micro. Elle m'a recommandé de m'inscrire là-bas, mais pour s'inscrire, il faut que tu passes des tests. Il faut que tu fasses des tests, tu t'enregistres devant le micro pour être sûr que tu as vraiment du potentiel. Et je me souviens, mon enseignant m'a dit quelque chose que je vais me souvenir jusqu'à maintenant. Il m'a dit, toi, t'es fait pour la communication. Toi, t'es fait comme ça, t'as une certaine aisance. Et avec du recul, ça fait du sens parce que la pomme ne tombe jamais très loin du pommier. Mon père a un bac en communication. C'est une personne qui s'exprime assez bien. Il aime la lecture. J'aime aussi la lecture. On dirait que plus tu vieillis, plus tu te rends compte que tu ressembles à tes parents. Quand j'étais jeune, comme je l'ai dit, j'étais un enfant turbulent. J'aimais pas l'école, faire mes devoirs et tout, la lecture. Mais maintenant, 7-8 ans plus tard, la lecture est dans un de mes centres d'intérêt préférés. Je préfère ça que jouer aux jeux vidéo. Je préfère ça que faire du sport. Genre, je passe peut-être 20 heures par semaine à lire des livres. Donc, plus tu grandis, plus tu deviens comme tes parents. Et ce que tu fuyais quand tu étais jeune, on dirait que ça te rattrape un peu plus tard. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je veux faire si je vais avoir un parcours un peu plus autodidacte, c'est-à-dire est-ce que je veux travailler à mon compte ou être dans une certaine structure. Donc, on va dire peut-être la télé, peut-être la radio. Je sais pas. Pour l'instant, je suis en train de le faire de manière un peu autodidacte slash auto-entrepreneur, c'est-à-dire que je travaille à mon compte de ce côté-là. Ça va faire un an que je ne travaille plus. J'ai eu... Je pense que le prochain épisode du podcast, je vais vous parler des multiples emplois que j'ai eus dans ma vie et les anecdotes. Parce que je vous dis, j'ai dû avoir au moins 20 travails dans toute ma vie. Là, je vous dis. Et j'ai commencé à travailler à 18 ans. Bref, ça va être tout un autre épisode parce que je ne veux pas que celui-ci soit trop long. Donc, pour conclure ma présentation, là, je viens de faire un peu une biographie de ma vie. Vous avez un peu appris à me connaître. Comme je vous dis, mes centres d'intérêt, le sport, l'audiovisuel, la technologie, la lecture, l'actualité, les débats, la politique. J'aime les conversations qui fâchent. J'aime les conversations délicates. J'aime poser les questions qu'il ne faut pas poser. J'aime les sujets un peu tabous comme ça. Et plus souvent qu'autrement, ça m'a... Ça a laissé place à certains dérapages sur Internet dans lesquels on va parler à l'épisode 3 du podcast. C'est pas mal ça. Pour conclure, si je pouvais vous dire une chose sur moi, comme je vous ai dit tantôt, c'est que je suis assez timide de nature dans la vie de tous les jours. J'aime pas avoir l'attention sur moi. Je suis discret. Je reste dans mon coin. Je donne pas mon opinion à moins qu'on la sollicite. Je sais que c'est un peu, ça fait contraste avec la personnalité que vous voyez sur Internet. Il y en a qui pensent que je suis une personne super exubérante, extravertie et tout ça. Je suis capable de l'être quand il le faut, mais si ce n'est pas le cas, je ne tiens pas absolument à être le centre de l'attention. Merci d'avoir écouté ce premier épisode, cette première présentation du Chris Negroski Podcast. On se revoit samedi prochain à la même heure pour le deuxième épisode du podcast. Petite chose que je peux vous demander, s'il vous plaît, c'est de laisser une note sur le podcast 5 étoiles, si vous le voulez. Ça aide pour le référencement et autres. Et aussi, sur Instagram, si jamais, me faire part de vos commentaires, suggestions, améliorations, des sujets que vous aimeriez que je traite dans ce podcast-ci, des invités si jamais. Je suis aussi ouvert à ça. Je peux me déplacer s'il le faut. Faites-moi part de ça sur Instagram, Chris Negroski, ChrisNegrowski. Je sais que là, je viens de l'épeler assez rapidement. Il y a des dyslexiques qui semblent comme « C'est quoi après le S? Ta gueule! » Non, je vous taquine. Merci d'avoir pris votre précieux temps pour m'écouter. C'était Chris Negroski, l'enfant prodige. See you!